Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis. Lancer la pub.
Il y a quand même une situation comptable où j'ai l'impression, et Fonseca, c'est pas un pimpon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec la famille, avec les frères, avec les bros, Walid Acharchour, Kevin Diaz. 21h01. Merci d'écouter RMC, Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Les amis, je vous rappelle que dans un instant, on va parler de l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Les infos Malik Fofana, Georges Mikotadze. Tiens, d'abord, je voulais finir quand même la page Mercato. Mais vous rappelez aussi que vous pouvez désormais nous écrire, m'écrire sur WhatsApp. Voici mon numéro, le 0612-424-424, 0612-424-424. C'est gratuit, évidemment.
Vous je viens de vérifier, mais c'est pas ton numéro. Hein.
Et je vais lire les messages.
J'ai pas le même,
peut-être que tu gâches les effets comme ça, en fait.
T'es venu quoi, là
quand tu réponds pas sur le téléphone comme.
Tu peux écrire sur celui-là.
On peut t'écrire
sur
celui-là.
Sur Apolline, tu peux tomber.
Ah, ok.
D'accord, ok. Donc c'est un numéro, ok.
Pour finir, les amis, donc, page Mercato, Magassa, Segundo Magassa, accord trouvé avec, entre Monaco et West Ham pour le transfert du milieu de terrain français.
Très bien,
on parle de 20 millions d'euros.
Passé par Lusitanos, Segundo Magassa.
Quel Lusitanos?
Sa mort.
Très bien. Parce qu'il n'y a pas qu'un Lusitanos, Kevin.
Il n'y en a qu'un seul.
Donc, confirmation, c'est El Koumbidi.
Même pour lui, West Ham, c'est bien, West Ham, Magassa.
Bien sûr. Ouais.
C'est un bon joueur.
El Koumbidi va donc signer à Wolfsburg, prépayant €1 million, plus option d'achat de 6 millions après 5 titularisations et €2 millions de bonus. Je termine avec l'OL qui prolonge le contrat de Radis Mera jusqu'en 2029. Jeune pépite sorti du centre de formation de l'OL, il est arrivé, il avait 9 ans à Lyon, au centre de formation en tout cas, il a 18 ans désormais.
T'as regardé un peu Kevin, Radis Mera?
Alors, quelques minutes sur les deux premières journées, Radis Mera, attends, je finis, un milieu terrain offensif, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, révélation de la pré-saison à l'OL. Kevin.
Alors, moi j'ai regardé.
Il est rentré 20 minutes contre Lens, 20 minutes contre Metz.
J'ai regardé, mais j'avais vu aussi en préparation. Écoute-moi bien. Tu sais que normalement, sur les jeunes, des fois un peu dribbleur, etc., j'ai un peu de mal. Mais alors lui, ouais, c'est tout à fait mon football.
Je te dis, 6-8.
Parce que tu vois, il a une simplicité, ouais, malgré sa technique.
Ah ouais, c'est...
Tu vois, il fait pas de fioritures.
Dans l'évitement.
Si le passement de jambes. Ouais, et puis en plus, j'adore. Ouais. Il doit faire 60 kilos, ça me va, c'est mon football.
Il scanne à mort, à droite, à gauche.
J'adore. Et puis, j'ai vu un interview où, disant que lui, voilà, Lyon, c'est vraiment son club, qu'il allait voir tous les matchs, qu'il forçait toute la famille à aller voir les matchs. Le gars, il vit son rêve, mais j'aime bien parce qu'il vit son rêve avec beaucoup de réalisme et surtout beaucoup de lucidité. Et en tout cas, j'aime beaucoup le profil.
Je savais.
Bon. Voilà pour Gralis Mera. Tiens, autre chose à vous donner rapidement. Vous savez que Rennes rêvait de Conrad Harder. Finalement, il va snober le club breton pour rejoindre certainement l'AC Milan. Accord trouvé entre le Sporting Portugal et l'AC Milan. Et puis Lucas Vázquez lui rejoint officiellement le Bayer Leverkusen. Il avait fait ses adieux au Real après de nombreuses saisons
donc
réussies.
Rennes, ils vont prendre qui Rennes ?
Ben, on ne sait pas pour l'instant. Voilà. Faut trouver.
J'espère
un
qu'ils
ne
vont pas prendre Brobet.
Et puis Tenas, c'est bouclé, hein. Arnaud Tenas, hein, va signer à Villarreal, il va quitter le PSG. Et enfin, pour terminer, alors Galatasaray, on en avait parlé avec notre confrère turc en fin de saison dernière, qui envoie du gros cet été. Là, c'est Bissouma qui va certainement rejoindre.
Mais Galatasaray,
Galatasaray.
On rappelle notre journaliste là.
C'est
Youssouf.
Ouais, exactement.
Mais Youssouf Kalik.
Mais Galatasaray,
c'est les spécialistes de
Feyenoord. Singo, Bissouma, Osimhen, ils ont fait un mercato avec des.
Déjà, ils avaient une belle équipe déjà.
Des indemnités de transfert.
C'est fou.
Ils vont encore nous décevoir en Europe ou ils seront sur le tirage au sort là, en Ligue des Champions.
Tout à fait, jeudi soir à 18h. Ce sera sur RMC, bien sûr. L'after sera là pour
le barrage. Là, ça va, ils n'avaient pas les barrages.
Exactement.
Alors, Lyon, les amis, l'OL, leader de Ligue 1. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut après deux journées simplement cette saison. Deux victoires contre Lens à Lens 1-0 et contre le Paris FC. L'OL peut-il être une très bonne surprise cette saison? Et quand je dis ça, hein, c'est jouer le top 4, voire plus. En Ligue 1, 32-16 pour en débattre. N'hésitez pas à venir également sur le chat de la chaîne YouTube de l'after. D'abord, info lyonnaise du jour. Et c'est une bonne nouvelle pour l'OL et les supporters de l'OL. Malik Fofana, flamboyant dans ce début de saison, va rester à Lyon. Il n'a pas trouvé le point de chute qu'il espérait, à hauteur de son ambition, du palier qu'il voulait franchir en quittant l'OL. En l'occurrence, on l'a dit, redit, et encore hier soir dans l'after, Everton, qui était prêt à mettre €40 millions, ce que voulait Lyon. Eh bien, c'est pas assez élevé pour lui. Ça correspond pas à son ambition, en tout cas, dans l'étape suivante de sa carrière. Il préfère donc rester à Lyon. Alors forcément, ça implique un autre départ. Lyon doit impérativement vendre environ €40 millions pour passer l'écueil du fair play financier. Qui va être désigné pour partir? Si on fait un raisonnement très simple, Daniel Riolo, qui sera là à 22h, bien sûr, estime que lui, c'est Mikotadze qui va être victime du maintien de Malik Fofana à Lyon, car c'est la seule vraie, et ça c'est factuel, grosse valeur marchande à l'OL.
C'est une possibilité, et il avait des gros candidats, notamment le Paris FC, mais il a à chaque fois refusé pendant tout l'été. Donc ce serait quand même très étonnant, et sportivement, je pense que tu peux un peu plus te remettre de la perte de Malik Fofana en prenant un ailier en prêt sur la fin de mercato que d'aller chercher un numéro 9, parce que derrière Mikotadze, t'as personne, hein. À part, je crois, Alejandro Gomez et Molebe qui peuvent jouer dans ce rôle-là. Donc, moi, je serais quand même très, très surpris, mais c'est une possibilité financièrement. Mais si tu perds Mikotadze, bon courage, hein. Ligue Europa, Ligue 1. Bon, on va voir, on va suivre ça.
Perdre Malik Fofana avec Mikotadze,
ouais. Franchement, c'est...
Ah bon,
c'est...
Oui.
Ah, franchement, c'est un choix très, très difficile.
C'est très difficile, mais je préfère perdre Malik Fofana. Si je prends 40 millions Malik Fofana, je pense que sur la fin de Mercato...
Non, mais les 40 millions, tu pourras pas les réinvestir, hein.
Non, d'accord, tu pourras pas les réinvestir, mais tu pourras quand même essayer d'aller chercher un ou deux coups.
Ce qui est complètement fou, c'est que ils ont quand même... Ils ont un fonds de pension là du côté de Lyon quand même qui je sais pas, hein, je connais pas, on entend OK qu'ils doivent vendre absolument, mais là quand même là c'est vraiment des joueurs, si tu les vends, mais tu mets au pâquerette le minimum d'ambition
mais
que
oui,
tu peux avoir.
Mais les actionnaires investisseurs, ils ont déjà mis au pot pour maintenir et sauver la vie de Lyon en Ligue 1.
Non mais là attention, tu ne retrouveras jamais un joueur comme ça, que ce soit Mikotadze, rapport qualité-prix, je veux dire Mikotadze ou Fofana.
Fofana il reste. Mikotadze.
Oui, mais bon, il reste jusqu'à la prochaine offre de 50 millions.
Ouais, Fofana, il reste. Si le 30, t'as une offre de 50 bâtons, il va lui dire mon copain.
Il voulait le Bayern, je sais pas quoi. Bon, bref, si t'as un gros club, peut-être pas le Bayern, mais si t'as un autre gros club qui vient et qui envoie 50 millions, mais pour moi, c'est très, très difficile de laisser partir Mikotadze quand même, parce que là, aujourd'hui, t'as plus personne. L'année dernière, t'avais 4 avant-centres.
Même Molebe, je crois qu'il est. Il est courtisé par Séville, Molebe.
Tout à fait.
Ouais. Donc, ton option numéro 2 est Molebe. Pour l'instant, on ne l'a pas vu en Ligue 1 sur les premiers matchs. Ouais, Mikotadze, tu perds Mikotadze. Très, très dur de le remplacer. Et puis surtout, en plus, Malik Fofana, même si, attention, il est très important sur les deux premiers matchs, Malik Fofana. Hein. Je ne suis pas en train de sous-estimer.
Ouais, parce que les 6 points, c'est lui.
Exactement.
Beaucoup.
Il est surtout sur le deuxième match. Il est très, très bon. Mais en fait, tu étais préparé. Là, Mikotadze, tu n'es pas préparé.
Quand tu es préparé, tu vas mettre qui à sa place?
Pour Mikotadze ou Malik Fofana?
Non, pour Malik Fofana.
Non, mais normalement, je me dis que Mathieu Louis-Jean, il a un coup. Il a un poids de bande quand même, s'il perd Fofana.
Fofana, ça reste, un gars pour le remplacer à son niveau-là.
Oui,
c'est difficile.
T'as pas le même niveau, mais tu peux aller chercher un ailier ou deux en prêt. Tu peux essayer de faire quelque chose.
Oui, mais t'as aucune certitude que ça marche.
Tu cuisines une petite chouchouka, quelque chose, un truc intéressant. Tu vas chercher un mec en première ligue,
Ça paraît simple comme tu le dis, mais c'est pas si simple, évidemment.
Non, mais normalement, Mathieu Louis-Jean, il sait que depuis le début du mercato, Malik Fofana, il va partir.
Si tu le gardes un peu, est-ce qu'il prend pas encore 10 millions au prochain mercato?
C'est une possibilité aussi. Après, Michel Kang.
Avec quel oseille tu recrutes? Il faudrait un prêt.
Ben oui, tu vas rien. Tu vas recruter un mec de valeur, recruter un nobody.
Mais il y a des prêts.
Après, les nobody qu'ils ont pris, là, ils sont pas mal.
Il y a des prêts, là. J'ai vu Hugo Guimet de l'équipe avait sorti Buonanotte de Brighton.
Buonanotte, c'est un peu comme Emerson. On en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est un peu comme Emerson Palmieri et tout.
C'est vrai.
T'as aucune certitude que ces mecs-là, ils vont avoir le rendement des mecs qui remplacent.
Emerson Palmieri, il a fait quand même 30 matchs l'année dernière à West Ham, titulaire. Non, Buonanotte, c'est un pari. Mais de toute façon, t'es Lyon. T'es obligé aujourd'hui, Kevin, de relancer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tu vas voir qui?
Est-ce que forcément ça va impacter la saison de l'Olympique Lyonnais, hein, qui peut surprendre, en tout cas victoire à Lens et donc contre Metz et pas le Paris FC 3-0. Est-ce que vous pensez que ce Lyon-là, même s'il faudra attendre bien sûr la fin du mercato lundi soir, a les armes pour bien, voire mieux figurer que la saison dernière paradoxalement?
C'est toujours pareil, on vient d'en parler là pendant 10 minutes. Si tu perds Malik Fofana, bah déjà t'as 15 buts en moins sur la saison minimum, c'est pour pas dire 15 buts et 10 passes dé. Donc t'as presque à mon avis 25 buts en moins.
Enfin, attention, Malik Fofana il les a pas fait ces stats.
Oui, il a quel âge
Malik Fofana dans son profil.
Non, mais là il est dans l'année où il va exploser.
Oui.
Il est dans l'année où j'espère pour lui qu'il va exploser.
Pour moi les 25 buts les 25 stats c'est Mikotadze.
Oui, pas de problème. Pour moi c'est 25 avec Malik Fofana et potentiellement 20 ou 25 avec Mikotadze. Donc quid de Lyon dans une semaine. Maintenant, il y a quand même de gros points positifs, c'est que moi j'avoue que Morton, je découvre, j'adore.
Très bien. Mmh.
J'adore le
après,
gars.
On va voir contre l'OM le week-end oui, prochain, mais après, pour l'instant,
même,
c'est très
même
bien.
Même si contre l'OM c'est plus dur, ouais. C'est quand même très très bien ce qu'il montre.
Organisateur.
Puis technique, ouais. Volume de jeu. Ouais. C'est quand même.
Pas ce qu'il fait pour mettre Landline, ça, sur le deuxième but.
Exceptionnel. Ouais. Non, franchement. Et puis même, tu sais, le sourire en interview, le sourire après l'interview aussi, après match, sur son accent, pas son accent. Non,
après, franchement... s'il est mauvais sur le terrain, il peut sourire pendant 10 heures.
Non, mais c'est un tout. Oui. Un joueur, c'est un tout. Le premier, comme ça, le premier truc qu'il te fait, c'est oui. Physiquement c'est propre, ouais. Hors du terrain ça a l'air d'être sympa, en plus un centre de formation quand même de haut niveau, il y a un Mata qui est très bon, tu sens vraiment qu'il y a, c'est pour ça que pour moi, alors je ne sais pas encore une fois si c'est possible, mais financièrement faudrait tout faire, c'est pas du luxe quand même de garder juste deux titulaires pour essayer de voir si à la trêve ils peuvent pas les lâcher un peu plus tard et ils ont un petit matelas peut-être en championnat et voire même un beau parcours en Coupe d'Europe, mais aujourd'hui j'aime beaucoup leur recrue. Tessman, il fait un match énorme aussi. Tessman, moi j'ai toujours aimé Tessman, je trouve que c'est un joueur intéressant,
c'est valeureux, c'est utile, c'est un peu le...
c'est un bon joueur.
Non mais à l'image de l'OM, de ce qu'on disait sur l'OM, le destructeur un petit peu, le mec qui colle mat,
t'as vu le tacle qu'il fait là.
Lui, il est utile dans cet aspect-là. Après, avec le ballon, t'as mal aux yeux, hein, parfois.
T'as mal aux yeux, abuse pas. Il a pas les pieds carrés non plus.
Oui, il y a deux, trois transmissions, ils font.
Oui, non, mais c'est sûr. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les recrues. J'aime bien ce que dégage cette équipe. De toute façon, pour moi, c'est le club qui, voilà, c'est le gars qui est passé à côté de la mort et qui.
C'est le miraculé.
Non, mais pour le coup, on dit beaucoup de conneries. Enfin, moi, je dis beaucoup de conneries, mais cet été, moi, j'ai tout de suite dit, Nico, que avec Paulo Fonseca, que Paulo Fonseca, ce type de projet-là, il aimait beaucoup quand il y avait moins de pression, quand il y a des jeunes, quand il y a, je me rappelle de Lille post-Gourvennec, notamment, j'avais pris cet exemple-là, où on se disait où est-ce que va Lille avec Mohamed Bayo, Zedatka, Martin, Cabella, comment ils vont faire, etc. Ils avaient perdu beaucoup de joueurs à l'époque, Renato Sanchez, Botman, Yilmaz. Et le mec, il avait très vite imprégné une patte à Lille et ils avaient fait, je crois, top 5 ou top 6 cette année-là. Moi, j'avais dit, faut pas qu'on soit dans le catastrophisme côté Lyon parce que finalement, ils vont réussir à faire une petite cuisine, une petite salade. Derrière, il va réussir à aller tirer le maximum des...
Et tu vas rajouter, et en plus, c'est en Ligue 1, donc tout est possible.
Exactement.
Et en Ligue 1, top 4 en Ligue 1.
Et en Ligue 1, faut se calmer.
Deux points des gros.
En Ligue 1, quand t'as pas beaucoup de pression, de toute façon, il va avoir un groupe comme l'année dernière entre la 4 et la 8e place où les mecs, ils vont perdre des points, ils vont en gagner. Donc sur ça, moi j'étais plutôt positif. Et les deux matchs, bon, on a deux matchs différents, hein. On a un premier quart d'heure à Lens très très bien où tu peux mener 2-0. Derrière, par contre, deuxième mi-temps, tu dois te faire égaliser, tu dois subir la réduction du score, enfin l'égalisation, pardon. Et sur le deuxième match, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, notamment ce que j'aime bien moi, c'est que ça joue vite au ballon avec. En fait, c'est Tolisso et sa bande, quoi. C'est tu ça. Sens vraiment que c'est la boussole.
Tolisso et son crew.
Exactement, c'est Tolisso & Co. Où à la récupération du ballon, on va très très vite. À toi, à moi, il y a de la projection. Ça. Après, il y a eu de la gestion en deuxième mi-temps parce que le score était quand même bien bien entamé pour
Lyon. Ils ont quand même beaucoup d'occasions.
Exactement. Il y a un Fischer, le gardien messin, qui fait un très très gros match avec un Mikotadze qui aurait pu aller de son but normalement. S'il avait eu un peu plus de lucidité. Par contre, attention, c'est pas parce que c'est une agréable surprise. Il va falloir voir bien évidemment la fin de mercato, la photographie finale de l'effectif et l'arrivée de la Ligue Europa.
Oui,
parce que quand tu vois les rentrants, moi j'aime beaucoup le petit Khalis Mera, il est très jeune. Quand tu vois Kluivert, je connais pas du tout, qui rentre, le défenseur. Quand tu vois Kader Abek, même s'il marque, attention parce que il fait une bonne entrée. C'est plutôt le Schulte que j'ai pas. Je trouve que c'est pas un ailier, c'est plus un joueur d'axe. Donc il va falloir voir.
Il a le numéro 10 donc.
Mais pour jouer le jeudi et le dimanche avec cet effectif-là, faudrait pas qu'il y ait un mec ou deux qui se pète quand même.
Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument garder Fofana.
Et c'est comme pour Lille, qui est aujourd'hui même une agréable surprise par rapport au match contre Monaco. Mais j'attends moi pour ces deux équipes-là. L'association des deux compétitions.
Mais de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, au vu des budgets, au vu des énormes problèmes économiques que rencontrent les clubs français, ils ont les finances que pour avoir 12, 13 joueurs, c'est tout. Le reste, ce sera.
Mais est-ce que sur deux compétitions, tu peux?
Non, mais c'est impossible. 12, 13 joueurs, c'est impossible. Tu vas toujours avoir un suspendu, avoir un blessé, malheureusement, voire deux, voire trois.
Bon, et derrière. Ils ont un peu plus quand même.
Là, ils ont perdu Koundé, donc derrière Maitland-Niles.
Oui, il y a personne.
Derrière Maitland-Niles, il y a qui?
Il y a personne.
Donc là, t'as Tagliafico. Abner de l'autre côté, Tagliafico, il peut jouer les deux côtés.
Non.
Donc t'as Niakate qui revient.
T'as Mata qui peut jouer sur le côté.
Niakate qui a fait un bon match contre Metz et Mata. Ah oui, t'as Mata qui peut colmater au milieu.
Il fait un très bon début de saison. Mata,
oui. Au milieu de terrain, Tesman, Morton, Tolisso. Derrière,
celui qui peut jouer en 10. Le petit Mera qui va gratter des minutes.
Exactement. Sur les deux compétitions, ça reste quand même.
Non, c'est offensivement qui vont avoir des problèmes s'ils perdent Fofana ou Mikotadze.
Ah, tu peux avoir le retour de Mangala aussi, parce qu'on l'a oublié, Mangala qui avait coûté 40 millions, qui va revenir, je crois, novembre-décembre, il me semble. T'as Nouama aussi qui peut revenir en janvier. Bon, j'ai pas les bonnes dates, mais.
Ah, Koukou est toujours là aussi. Hein.
Pourquoi il peut revenir en janvier? Ah, les blessures.
Ouais, la blessure. Okay. Ouais.
Bon, en fait, je vais accueillir Luc au 32-16 sur Canal Noël, qui nous a appelé, qui patiente depuis un moment. Salut Luc.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue, on est heureux de t'accueillir dans Génération After. Bon alors toi, tu choisirais qui toi, Fofana ou Mikotadze Nozafo? On va attendre bien sûr la fin du mercato. Si Fofana va rester.
Pas les deux, mais mon cœur de Lyonnais, lui choisirait Mikotadze parce que l'histoire est belle. C'est peut-être la chose qui ferait pencher la balance parce que évidemment Fofana est un excellent joueur, Mikotadze est un excellent joueur. Donc faire le choix entre deux excellents joueurs, ça fait très mal. Donc l'affect parle. C'est-à-dire que Malik Fofana, moi, je me suis déjà fait, on va dire, le deuil de son départ. Mais s'il reste, pour moi, ce sera une très agréable surprise, à l'inverse d'un Georges Mikotadze qui a été présenté comme réellement la tête de proue du projet Kang Ares, avec monsieur Mathieu Wijan comme directeur du recrutement et Michael Gerlinger comme directeur sportif. Donc, ça me ferait assez mal. Mais je ne vois pas pourquoi Mikotadze partirait quand bien même Malik Fofana reste.
On verra ça. Quelle ambition toi tu vois pour cette OL cette saison justement, Kevin parlait souvent des destins, des miraculés qui saison d'après et dans tous les sports c'est valable, surprennent tout le monde. Est-ce que tu penses cette OL là avec ses contours d'effectifs là à 4 jours 5 jours de la fin du mercato peut rivaliser avec les Monaco, Lille voire Marseille cette saison?
Ah, il faudrait faire un comparatif de des équipes que tu as citées avec l'Olympique Lyonnais, hein. Et je pense que tout le monde ici, Kevin comme Walid et comme tous ceux qui regardent le foot français, voient qu'on est sur un championnat qui est assez affaibli économiquement, qui est affaibli sportivement, hormis évidemment le Qatar qui est à la tête du PSG. Et voilà, on a vu les résultats. On a vu un Monaco qui est capable de mettre trois pions contre le Havre et de trouver face au LOSC. Le LOSC est capable de faire 3-3 avec Brest. Brest est capable de perdre contre Toulouse. Bref, c'est un championnat assez ouvert. Et nous, on a enfin quelque chose qui nous manquait depuis que Textor est arrivé, mais même à la fin de l'ère Olas, c'est une direction professionnelle, une direction sérieuse, c'est-à-dire une direction qui n'est pas philanthropique, qui n'est pas là pour l'amour et les beaux yeux des traboules de Lyon, mais qui est sérieux, qui veut gérer correctement l'argent qu'elle met à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais, donc qui va pas faire de folie et qui va aussi contenter le plus possible le coach Paulo Fonseca pour justement rentabiliser ce qu'ils ont simplement prêté au club. Donc le sérieux de la direction lyonnaise plus le talent, en tout cas la vision sportive de Paulo Fonseca et notre centre de formation à mes yeux, qui va bientôt revenir près du stade, pour moi c'est une machine parfaite.
Bon, écoute, on va voir ça. Et il y aura, tu l'as dit tout à l'heure, un énorme test déjà dimanche soir, 20h45. Ce duel entre l'OL et l'OM.
Tu peux mettre l'OM à 6 points.
Pour en savoir, après, qui est Walid. Voilà. J3 à 6 points, certes.
Je te donne une information.
Tu fais ce que tu veux. Oui, c'est très bien. Peux plonger l'OM dans la crise.
Non, mais je te donne une information avant la trêve. Si, sincèrement, tu fais 9 sur 9, déplacement à Lens, tu reçois Marseille et tu reçois Metz. Bon, si, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes.
La première depuis 1980.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient.
On n'a pas fait 9 sur 9 dès le début du championnat.
Pas beaucoup de personnes auraient misé sur ce bilan.
C'est pour ça que l'OM devrait réintégrer Rabiot très vite.
Depuis combien de temps, Luc, t'as dit
1980.
Ah, donc même dans les grands titres de l'OM,
grands titres, on n'a jamais fait 9 sur 9 au tout début du championnat.
Incroyable.
Ah bon?
Oui. On va checker ça, mais on te fait confiance.
On te fait confiance.
Mais on va quand même checker.
Allez checker sur le compte DataOL sur Twitter. Qui
incroyable. J'avais 3 victoires, 3 premières journées, d'accord. Okay.
Ouais, voilà, exactement.
Enfin, avant, la Ligue 1 était plus équilibrée, qu'est-ce que je te dis?
On verra ça.
J'ai dit avant, la Ligue 1 était peut-être plus équilibrée.
Ah oui, effectivement. Je ne sais même pas si à ce moment-là, on était en Ligue 1 ou on était encore en D2. Je n'ai tellement plus, en fait. Ça fait tellement longtemps.
T'étais encore en D2, je pense. Ah,
tu vois, avec mon information, on a appris quelque chose.
Ouais. Voilà. Une vraie stat. Luc, merci d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux dans Génération After. Tu es ici chez toi, bien sûr.
Avec plaisir.
À très vite.
Bonne soirée,
le dimanche soir pour le débrief. Salut, ce match dans l'After. Tiens, un petit moment teasing important de ma soirée. Événement invité de Génération After avec Kevin et Walid. Samir Nasri sera avec nous à l'occasion de la sortie de son documentaire biographique, qui relate sa vie des quatre ténors de Marseille, de Septime même, jusqu'à l'OM, bien sûr, le club de ses rêves. Arsenal, City, Séville, il sera avec nous pour refaire sa carrière fabuleuse, somptueuse. Samir, ami des RMC, ami de l'After également, ami de nous tous avec qui on a joué au padel déjà. On va tout révéler ce soir.
Ami du football.
Joueur en plein progrès au padel.
Ouais.
Aussi.
Ouais.
Pas au niveau de Walid encore, mais.
J'en apprends à mes dépens.
C'est vrai?
Ouais.
Il est au-dessus de toi maintenant?
Ouais, il est pas très loin.
Pas très loin?
Ouais, pas très loin.
Très bien. Et le tennis également, lui c'est pas le paddle, c'est le tennis. Eric Salio est à l'US Open, Louis Boisson face à Golubic. La sensation de Roland Garros va-t-elle se qualifier pour le deuxième tour de l'US Open?
Elle vient de sauver une balle de match, salut à tous. Ouais. Donc c'est compromis, puisqu'elle est menée 5 jeux à 2 au troisième set contre la Suissesse. Elle avait pris le premier 6-3. Malheureusement, elle n'a pas eu le deuxième au tie-break 7-6. Et depuis une vingtaine de minutes, ça va pas fort pour la numéro 1 française. En plus, elle a fait appel au kiné, on a vérifié ses signes vitaux, donc ce qui prouve qu'elle est pas au top. Donc balle de match pour Golubic face à Louise Boisson. C'est terminé, ça y est, c'est terminé. Un coup droit qui sort de quelques centimètres. Élimination de la numéro 1 française ici à l'US Open. C'est un nouveau coup dur puisque en début de journée, Giovanni Pecci-Péricard a été sorti par Musetti. Donc Golubic bat Boisson, 3-6, 7-6, 6-2. Les premiers pas sur Simon sont douloureux.
À tout à l'heure, mon cher Eric, Septem les Vallons pour Samir Nasri.
Vas-y, Septime.
Septem les Vallons.
Je voulais pas te reprendre.
Au nord des quatre ténors de Marseille.
Exactement. Je voulais pas te reprendre.
T'as un petit message WhatsApp de Guillaume qui nous dit assez rare de vous écouter en direct à cause du décalage horaire, mais là travail oblige. Quel régal de vous entendre vous chahuter comme ça un coucou de l'île de la Réunion.
C'est gentil.
Je kiffe Génération After, Guillaume. Merci Guillaume.
Merci
salut.
Guillaume.
Salut Guillaume. L'île de la Réunion. J'ai pas eu la chance d'aller encore une fois. Quelqu'un déjà allé à l'île de la Réunion?
Non, mais j'aimerais bien aller.
Faire des randonnées à l'île de la Réunion.
Super. Ça va être exceptionnel.
Merci à toi, Guillaume. À très vite dans un instant la suite de Génération After.
Quoi? Bon, j'ai un bon rougail saucisse puisque c'est le thème de l'after.
Tout à fait. Reste avec nous dans un instant la suite de Génération After, la vie de Walid sur l'AS Monaco, le fatalisme autour de Monaco. Main supporte! Voilà ce que va dire Walid dans un instant sur RMC. À tout de suite, il est 21h23.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acherchour, nous venons d'enregistrer le Step 1 dans Génération After, qui était de bonne facture pour la reprise. Je vous laisse l'écouter en podcast, bien sûr, dans quelques minutes. Alors, à l'instant, émotion. Événement
c'est
surtout.
C'est dingue.
Un barrage de qualif pour la Ligue des Champions. Nous aurons un club kazakh parmi les 36 équipes de la phase de Ligue des Champions pour la première fois. Le Kerat Almaty vient de se qualifier à l'issue d'une séance de tirs au but. 0-0 à l'aller contre Celtic Glasgow. 0-0 au retour. Qualification. On en parlera également, je pense, ce soir dans l'after demain aussi. On trouve un bon spécialiste du football kazakh. C'est pas évident.
Ce déplacement va pas falloir se le manger, hein, quand même, en termes de temps.
T'as raison.
D'avion,
surtout au mois de janvier, tu vois, le truc. Ouais.
Ils ont sorti le Slovan Bratislava sur le premier tour, et là, ils viennent de sortir le Celtic. Slovan Bratislava qui était dans la phase de Ligue l'année dernière, et le Celtic, la même chose.
Bon. Je dis attention parce
vu les deux scores, j'ai pas l'impression que ce soit
j'ai pas l'impression que ce soit du football champagne non plus.
Hein. Exactement. Si on peut avoir des témoignages de ceux qui étaient devant les deux matchs, qui nous racontent un petit peu, mais
tu connais quelques joueurs de Kerat Almaty ou pas?
Par contre, sensation est énorme. Hein.
Ils ont quand même devant
ils ont vu nos profs.
Par de quoi? Ils ont... Et Borat apparemment dit aussi. Borat est coach. Devant, ils ont quand même Jorginho et Ricardinho.
Ah ok,
ils sont deux Brésiliens. Voilà. Et Tapalov au milieu de terrain aussi. Voilà. Glazer est là aussi. Bon, il y a plein d'homonymes. Mata est là aussi en défense. Ouais, le gardien Arna Bekov. Ils vont donc jouer la phase de Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on peut avoir un Marseille Almaty, un Monaco Almaty ou un PSG Almaty.
Il y a que Najib, notre producteur, qui doit connaître les joueurs.
Non, là-dessus, il est battu là. Sachez également que nous avons Paphos, club chypriote, qui joue le barrage.
D'accord.
Le calife pour la Ligue des Champions contre les Tours Rouges Belgrade. 2-1 à l'aller, Paphos, 0-0 retour.
Paphos, honnêtement, je connais pas ce
nom. Non plus. C'est dingue. Donc ça veut dire que Seferin a raison. Ça veut dire que il y a une vraie ouverture avec cette nouvelle formule. Peut-être. On aura peut-être un club chypriote, un club kazakh dans la phase de ligue.
C'est sympa d'aller à Chypre, par contre, je pense.
Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Najib ? Il fait des blagues. Il sera dans... Ah oui, David Luiz est à Paphos, c'est vrai. Oh. Tout à fait. Voilà. C'est, ouais. On va pas non plus. Voilà. C'est Najib et il connaît le Paphos aussi. Magnifique.
Incroyable.
Bon, voilà, on suivra ça bien sûr dans l'after, la fin de ces matchs, et puis 1-0 pour Bodo Glimt face sur la pelouse de Sturmgrass. Séance de tir au but à venir. Monaco à présent, justement, qui va jouer la Ligue des Champions, au tirage au sort 18h pour l'ASM. Ah, j'ai pas le refresh. Un partout. C'est parti pour l'avis de Walid. Monaco, le fatalisme autour de l'ASM m'insupporte. Jingle Walid.
C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait que il cache la cause de. Il cache la cause. Il cause la cache pas. Non.
Bon, c'est un top 5.
Oui, facile. Oui, Monaco, je voulais parler de Monaco, le fatalisme m'exaspère, m'insupporte, on en a beaucoup parlé déjà avec Jean-Louis et Daniel sur le débrief de match contre Lille, j'ai parlé d'équipe fainéante, certains ont dit que j'étais très très dur envers Monaco, que finalement Monaco va faire top 3 comme d'habitude, ils ont l'équipe pour être top 3 et ça suffira, et Monaco a des problèmes d'argent et Monaco doit vendre, voilà, c'est la place de Monaco, faut s'en satisfaire. Il faut se faire à l'idée que ce club-là, malheureusement, a une limite, même dans la pression qu'il peut avoir ou dans l'exigence qu'il peut avoir autour de ce club. J'entends tous ces arguments, mais moi, ça m'exaspère. Parce que, au fur et à mesure des années, en fait, Monaco, je commence à me détacher de ce club, alors que ce club-là, j'aimais beaucoup. On a été bercé par ce club très très jeune, avec des immenses stars, avec un centre de formation de dingue. C'est toujours le cas, mais avec un côté compétitif à un moment donné, des très belles épopées européennes. Moi, j'ai été élevé avec 2004, 2017, cette demi-finale de Ligue des Champions contre la Juventus, ce titre face déjà un grand Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Monaco. Moi, ce que je vois sur ce mercato, c'est un Merano géant avec Ansu Fati, avec Paul Pogba, où on veut plus miser sur l'aspect médiatique autour de Paul Pogba que de véritablement renforcer cette équipe. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, entre le possible départ de Ben Seguir, Magasa qui va partir, Singo qui va partir, on a un Mbolo qui arrive à un an de la fin de son contrat, le cas d'Utter qui me convainc toujours pas dans le jeu, dans la patte qu'il veut mettre en place. Et moi, Monaco, j'aurais aimé, je vais pas dire qu'il doit gagner, que cette équipe-là doit gagner le titre, mais ça doit être une équipe qui, en Ligue des Champions, qui, dans ce championnat, ou même dans le jeu, doit montrer beaucoup plus de choses, que ce club-là aille au bout de ses capacités, parce que c'est un club qui a énormément de capacités, qui a une académie de dingue, qui a quand même un peu d'argent pour recruter, qui a une attractivité quand tu vois la qualité des joueurs qui arrivent, en tout cas le CV qu'ont les joueurs qui arrivent, un Eric Dier qui a connu Tottenham, une finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich avec des grands coachs, Radecki qui était à Leverkusen, Zakaria qui était à la Juventus, à Chelsea, bref, je vais pas tous les faire, les 40 millions sur Balogun, un Mbolo qui était quand même un joueur réputé, je vais pas tous les faire, mais je dis juste que moi, ce fatalisme des observateurs, même des gens au club, ça m'exaspère. Les supporters ne sont pas tous comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui commencent à avoir un peu d'exigence envers ce club. Mais moi, je vais bientôt baisser les bras. Je vais bientôt baisser les bras.
Tu ne voudras plus les commenter.
Mais les avis tranchés autour de Monaco, tu vois, par exemple, quand je fais les avis tranchés, on va me dire t'es dur, t'aimes pas Monaco, c'est bon, tout n'est pas à jeter. Oui, bien évidemment que tout n'est pas à jeter. Mais quand moi je vois les deux premiers matchs, contre Le Havre et contre Lille, où Lille, attention, les 15 premières minutes, ils méritent d'ouvrir le score. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on peut pas me dire qu'on doit se satisfaire du rendu. C'est pas normal. C'est pas possible, en fait. Donc, c'est Jean-Louis qui disait, je terminerai là-dessus, et j'ai trouvé ça terrible, moi, terrible dans le bon sens du terme. la comparaison avec l'Olympique de Marseille où il disait en fait Monaco il devrait prendre 20% de l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille devrait prendre 20% de Monaco.
Quoi, sur le calme et la pression.
Et c'est vrai que c'est...
Ou alors il faudrait délocaliser Monaco la SM.
Comme les Warriors qui avaient quitté Auckland pour
San Francisco.
Moi j'arrive pas avec...
Délocalise Monaco, je sais pas moi.
Voilà, c'est encore mon avis du soir.
Non mais là tu découvres que la lune éclaire la nuit, toi.
D'accord.
Non, mais c'est la vie là, ça fait des années qu'on les a dans l'after. Parfois, on ne sait plus quoi dire, on est un peu désespéré comme toi.
Oui, bah,
mais nous, ça fait longtemps. Il y a une fatalité parce que.
Nous, ça fait longtemps qu'on pense que l'AS Monaco, avec cet environnement, de toute façon, depuis que l'AS Monaco n'est plus vraiment géré par la principauté, par le prince, etc., avec un football un peu passion, depuis que c'est un football. Alors certes, ils ont été champions de France une fois, ils ont fait un beau parcours en Coupe d'Europe, mais depuis que c'est géré par des gens qui sont là pour d'autres choses que uniquement le foot, c'est-à-dire l'économie, ils réfléchissent à les mecs, ils sont censés pas avoir de problème d'argent.
Mais justement,
quand tu n'as pas d'engouement populaire, quand tu as 1500 à 2000 personnes au stade, c'est quand même une anomalie dans le football européen qu'un club avec un si gros budget ait un si petit stade et un si petit public. Alors il y a l'anomalie qui est très sympa d'être la principauté, le Rocher, un endroit particulier dans le monde.
Non, mais t'as gagné ça, 8 fois la Ligue 1 quand même.
Pas de souci, mais tu l'as gagné à une autre époque.
Non, attention, tu l'as gagné en 2000, 2017. En 1997, 2017.
Oui, mais d'accord.
Pas non plus.
D'accord, mais
c'est gagné quoi.
Depuis qu'il y a les nouveaux propriétaires, tu l'as gagné combien de fois?
Une fois.
Tu as été même descendu en Ligue 2 avec ses propriétaires.
Pardon?
Bien sûr.
T'es descendu en Ligue 2.
Avec Ribolo Bluff, tu les descends?
Ah, est-ce que c'est avec Ribolo Bluff?
Non,
je crois, mais bon, peut-être pas. Non. Ok, non, mais non. En tout cas, t'es descendu en Ligue 2 même, avec toujours un budget conséquent. Dans ce club, ils ont réfléchi il y a quelques jours à vendre leur capitaine et meilleur joueur. 40 millions. C'est pas 140 millions.
On a le droit d'en parler quand même.
Mais ça
m'intéresse.
Moi, ça m'intéresse. Je l'ai dit que c'est que s'ils le vendaient. Alors là, il fallait jeter tout aux oubliettes et fallait oublier de parler de l'AS Monaco parce que honnêtement, je comprends pas. C'est quand même pas un problème c'est pas un club qui a des problèmes d'argent qui roule pas sur l'or.
Si on me dit que là, les droits TV aussi vont être
en difficulté,
vu qu'ils ont pas d'affluence stade, que moi c'est ce qu'on me dit. Donc
peut-être, mais
moi je suis pas sur BFM Business ce soir, donc je parle de foot.
C'est un club qui est passé d'un budget à plus de 200 millions à maintenant à 120.
On parle de l'after aussi.
Oui, d'accord, mais moi je suis pas. Oui, d'accord.
Business.
Très bien, mais je sur l'économie.
Ils étaient à plus de 200 millions, maintenant ils sont à 120. Comme le Paris FC apparemment.
Moi, je suis pas qualifié.
Mais c'est quand même un club, je suis désolé, Cédric. Très très difficile à analyser.
C'est avec nous 32-16, supporter de l'ASM. Salut Cédric.
Bonjour, excusez-moi.
Salut Cédric. Bienvenue, mais de rien, mon cher Cédric.
T'as pas à t'excuser.
T'excuses pas d'être là, Cédric. Hein.
T'excuses pas d'être chez toi.
Bah non, je suis pas chez moi, je suis à Deauville je suis en train de regarder un match amical entre le CPC Caen et LM Évreux.
Ça, c'est le vrai foot.
Wow, ça, on aime.
Ça, on aime. Et il y a combien?
Eh ben il y a Caen gagne de 14 points, 81, moins 14.
Oh, c'est du basket.
Là, on parle de basket, là, d'accord. Basket. Oui, bien sûr.
C'est du basket, c'est pour ça.
Oh, ok.
Bon, alors. Match de foot, voilà.
Est-ce qu'il y a plus d'ambiance là où tu es qu'à Louis II quand tu y vas?
Non, arrête, Nico, c'est pas cool, ça, c'est en dessous de la ceinture.
On arrive constructif, etc.
Après, les supporters, ils vont te dire.
Je suis allé 300 fois à Louis II.
Et alors?
Je suis toujours un peu ennuyé en termes d'ambiance, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on est en Louis II.
Vaut mieux avoir peu de supporters et de qualité. Que beaucoup de supporters qui ne sont pas forcément de qualité. Nous, on est des connaisseurs.
Bon, alors, toi, est-ce que tu souscris à...
Montre-nous tes connaissances.
Au sentiment de Walid, qui est un peu fataliste avec Monaco. Voilà, Monaco, c'est quelques émotions parfois, quelques années. Et après, et voilà, ça rentre dans le rang. Quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, je suis entièrement d'accord. C'est incompréhensible. Moi, après, le coach qu'on a pris, c'est pareil, il n'a pas d'âme. Il n'apporte rien à l'équipe.
On t'entend mal, Cédric, malheureusement.
Il y a un 3 points qui vient de passer.
T'as dû faire un choix entre un lancer franc et RMC, c'est compliqué.
Il y a un bloc, il y a lancer franc.
Supporter de Monaco à Deauville qui regarde un match de basket, c'est.
Camoulox. Tout à fait. C'est vrai que c'est bien souvent, je crois, dans l'after, notamment avant les matchs de Monaco.
Oui, c'est vrai que je.
Il descend souvent, il traverse la France, il va à Louis II.
Celui qui est au puits.
Souvent pertinent.
C'est ça, exactement. Tout à fait.
Cédric, toujours pertinent.
Cédric, tu peux nous rappeler. Là, on doit faire une pause, malheureusement. Et on va terminer notamment sur cette jeunesse spectaculaire en Angleterre en première ligue. on va parler, on va écouter l'énième disque de Kevin Diaz. Le disque. Il est pas rayé. On va écouter ça.
Pas du tout.
Reste avec nous alors qu'il y a toujours
de l'after,
0-0 entre Paphos et l'Étoile Rouge Belgrade. Et est-ce que c'est terminé entre Shungas et Brodo?
Dès la 30e minute, il y a 5 minutes, donc je pense que c'est pas terminé en fait, Nico.
Non, je parle pas de ce match-là. Laisse-moi revenir tranquillement de vacances, d'accord.
Parce que ici, là, on va te presser comme un citron. Nous, c'est on-field ici. Hein. Ici, c'est Liverpool.
Moi, j'ai balancé.
C'est Saint-James Park.
Je vais balancer nos gouverneurs d'équipe qui avaient mis tir au but en cours. Ils étaient plantés entre Karat et Almaty.
Va sur Flash Score. Je te le dis à chaque fois, va sur Flash Score.
J'irai même pas sur l'ancienne école. J'adore l'équipe.fr aussi.
Va sur Flash Score.
Ou RMC Sport.
Bisoccer, c'est très fort.
D'accord. Partenaire ou quoi? Tu touches?
Non, pas du tout.
Tu touches,
non,
toi. Si, tu touches,
garçon. Il y a une piécette.
Ah non, pas du tout.
Il y a une fétiche.
C'est une application que j'ai pris, que j'ai payée, mais je trouve qu'elle est exceptionnelle.
Allez, on revient dans un instant. RMC Génération After, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Génération After, le dernier quart d'heure avant de passer la main à l'After avec Gilbert Bribois, Flo Gautreau, Daniel Riolo et Jean-Louis Tour. Ce soir, la Dream Team de l'After cette saison. Je rappelle que nous serons là toute la saison de 20h à 22h avec Kevin, Walid et pas seulement l'équipe, vous savez, est étoffée. David Guzman, Jennifer Mendelevitch, Shelton Mokolo, bien sûr, Félix Roy, nous aurons la perdu.
On a perdu Félix.
C'est fini ?
C'est fini.
Bon,
on lui souhaite le meilleur.
Le meilleur, exactement. On s'est quitté en très très bon terme. On a adoré la collaboration.
Le dimanche après-midi.
Avec Pierre Boubi. Très beau multiplex. Voilà,
très bien.
Je le trouve très bien.
Il est très bon, ouais, Félix. Très c'est bon. Un très bon Félix.
Exactement.
Il y a Jimmy Brown aussi.
Il y a Jimmy Brown.
Et Jimmy Brown qui sera avec nous aussi. Une grande de la table.
Jimmy Brown.
Jimmy.
Et Thierry Henry.
Je pense que beaucoup de gens pensent qu'il s'appelle Jimmy Brown, vraiment, tu sais. B-R-O-W.
Jimmy Brown.
Il y a Thierry Henry aussi qu'on a signé.
Mais ça, je devais l'annoncer demain.
D'accord, ok.
En revanche, demain, ça c'est vrai, on aura Samir Nasri, notre invité dans Génération After. Une heure avec Samir Nasri pour évoquer notamment son documentaire, hein, signé Production Canal+, qui est magnifique d'ailleurs. Walid, tu l'as vu aussi.
Oui, je l'ai vu.
On en parlera avec Samir, qui refait toute sa carrière. Ce sera
pendant 20h.
Rendez-vous dans Génération
After. On l'aura pendant combien de temps ?
Pendant une heure, Samir.
Une heure ? Ah ouais.
Ah oui, une heure de Samir Nasri, Génération After, là. Vous avez fait du lourd, là.
Ouais, c'est pas mal.
C'est très, très bien. Ouais. On grandit, hein, quatrième saison. Hein. Ouais. Attention.
Ouais, c'est quatrième saison.
C'est une émission qui commence à se lancer.
On va arrêter avec les petites émissions. Tu fais ça tous les trois mois, garçon.
Non, ouais. Non, c'est
autant écouté que les anciens.
On se bat, on boxe. Dans ce monde des médias qui est compliqué, on boxe.
Ce monde de requins.
Exactement.
Alors, les gars, c'est vrai qu'il y a une émotion en Angleterre et même en Europe. On en a parlé hier avec Julien Laurence. Avant même le but de Rio Ngumoa, 16 ans, le but de la victoire de Liverpool.
Au passage, excuse-moi, je parle de Canal+, mais le commentaire de François Marchal sur Ngumoa.
François Marchal, c'est un crack.
C'est exceptionnel.
C'est un crack.
C'est exceptionnel. C'est
un crack. Après là, pour le coup, c'est un
tu penses qu'il s'est travaillé énorme. Ce qu'il fait sur Ngumoa.
Non, non, non. J'ai capté. Il improvise, François, ouais. Bien sûr.
Mais
en revanche, ouais. Là, le décor, il existe. Il a 16 ans. Il y a une histoire tout de suite.
Ah bien sûr.
Tu jettes sur l'histoire.
Mais...
c'est pas le plus dur.
Oui,
mais
il y a la petite rime. Il y a les deux phrases. Et Ngumoa. Oh, c'est le commentaire, il est dingue. Le commentaire, il est dingue.
Excellent.
Et Saint James Park, il faut que je le fasse. Saint James Park.
J'étais à l'école de journalisme avec François Marchal.
Ah oui. Et ah d'accord. J'en ai bien compris. Parce que dès que tu dis du bien de quelqu'un, il y a une affiliation. Moi, je le connais pas. J'ai jamais vu. Mais par contre, Saint James Park, faut le faire. Hein. Faut que je le fasse.
Une affiliation.
Bien sûr.
C'est pas ça une affiliation.
Non, une affiliation, non.
Une affinité. Ouais. Ouais. Oui, ouais. Oui, bah, affiliation. C'est pas le mot précis.
Oui,
on
une affiliation, c'est quand il y a
une affinité ou une histoire commune.
Excusez-moi, affinité.
Va plus simple.
Ouais.
Vous êtes en grande forme, les gars. Ça part d'une vitesse. Si vous maintenez cette intensité-là toute la saison.
Mais nous, on a fait moi,
je
prépa,
prendre,
nous,
je prends 5 ans.
Et nous, là, on est à notre pic, on est à notre pic de forme.
Je transpire, les gars. Bah, c'est moi, envoyé de la clim, là. Moi, je reviens, j'étais en Grèce, tranquille, et là, je me prends des rafales.
Il a mis chemise ouverte et tout.
Il est pas bien.
Alors,
la,
Rio.
La petite bouteille d'Evian, là, tu sais, le.
Lance-t-on trop jeune, trop tôt les jeunes joueurs, en tout cas. Sujet épidermique pour Kevin Diaz. Je cite à l'instant Rio Ngumoa, 16 ans. Première apparition avec Liverpool hier. Buteur décisif dans les arrêts de jeu contre Newcastle. Et Max Dauman, dont on a parlé, hein. Julien Laurence nous a dressé le portrait hier avec les drôles de dames. 15 ans, 8 mois. Première minute en première ligue sous le maillot d'Arsenal ce week-end. Deuxième plus jeune joueur de l'histoire, débuté en première ligue. Enthousiasme général, je le disais, en Angleterre. Également, et ça c'est ça qui est dingue, ça qui m'intéresse dans le sujet, un peu partout en Europe, chez les observateurs, c'est fantastique. Record de précocité, le talent déjà, nouvelle génération, même si l'histoire, on en parlait tout à l'heure, regorge de joueurs qui ont démarré à 16 ans au plus haut niveau. Kevin, on sait que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, parce que toi, tu estimes, très simplement que ces gamins-là n'ont pas leur place dès maintenant au plus haut niveau, qui plus est pourquoi pas en première ligue. Mais la question c'est, est-ce qu'il ne peut pas démarrer à 16 ans avec une très bonne gestion ? Toujours le débat qu'on a eu souvent avec toi.
Bah écoute,
comment tu réagis quand tu vois les trajectoires de Ngumuwa et de Max Daumann?
Mais c'est exactement ça. Hier, j'ai entendu donc Julien dire ah ouais, il avait aussi fait sur Instagram, puisque je le suis bien sûr, un petit post disant que c'était exceptionnel de voir un jeune comme ça avec autant de maturité pour le jeune d'Arsenal. Et puis après, c'est sympa de voir le mec qui marque à 16 ans à St James Park pour donner la victoire à son club. Bien sûr que c'est beau à voir. Mais aujourd'hui, moi, ce que je répète, c'est que les exemples sont trop nombreux de joueurs qui ont commencé trop tôt. Je prends par exemple, un gars que personne, en tout cas de nos générations, n'a oublié, c'est Bojan Krkić, qui te dit que ce truc-là l'a détruit de commencer trop tôt au Barça, je rappelle toujours cette phrase. Allez, je vais le dire une dernière fois, parce que je pense que maintenant c'est rentré. Le cerveau d'un jeune homme n'est mature qu'à 25 ans. À 25 ans, pas à 18 ans, pas à 20 ou 21, à 25 ans. C'est-à-dire que voilà pourquoi les joueurs de 25 ans sont des meilleurs joueurs que ceux de 15 ans, ou de 16 ou de 17. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser le temps déjà de maturer, de grandir psychologiquement. Après, on parle du foot, on parle des expériences. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories U17, U19. Et tout ce que je dis, et ce qui n'est pas assez entendu, c'est pas que le gars ne peut pas commencer à 16 ans. C'est que le gars, en commençant à 16 ans, tu ne le mets pas dans les meilleures conditions, qu'elles soient sportives et surtout psychologiques. Puisque je vais te citer les noms des joueurs que Najib m'a donné, puisqu'on en parlait cet après-midi. Vous vous rappelez de Federico Makeda? Vous en rappelez? Il a commencé à 17 ans à Manchester United. Bojan Krkić, Hakim Mastour, super joueur, très, beaucoup de qualité.
On l'avait jamais vu au très haut niveau, Mastour.
Peu importe, commencer à 16 ans, quand même. Freddy Adu, on disait que c'était le nouveau Pelé, il a commencé à 14 ans. Non mais c'est complètement ridicule. Mais après, il y a plein de joueurs qui sont comme Martin Odegaard, qui a commencé à 16 ans, puis qui a disparu jusqu'à 22 ou 23 ans.
Moins.
Mais si, mais il a disparu. Tu sais qu'il a été à Herenveen pendant 2 ans prêté dans l'anonymat.
Enfin, c'est pas un mauvais exemple quand même, Odegaard.
Mais bien sûr que si. C'est un gars qui est parti trop tôt.
Oui.
Mais c'est un gars qui est parti trop tôt.
La suite du chemin, elle est belle.
Mais il y en a plein d'autres. Gaël Kakuta, bref. Il y en a plein des gars qui avaient énormément. Même Ben Arfa, je suis sûr que ça ne l'a pas aidé d'être si jeune, exposé, etc. Donc en fait, tout ce que je dis, c'est qu'il faut leur laisser le temps. Parce que si le gars est bon à 16, il sera excellent à 19 ou 20 ans. Il sera encore meilleur.
T'as des contre-exemples ?
Oui, j'ai des contre-exemples.
Lesquels ?
Comme par exemple Eden Hazard.
Ouais.
Ou Cesc Fabregas.
Oui.
Ou El Niño Fernando Torres, un de mes joueurs préférés. Ces gars-là ont commencé jeunes. Ces gars-là ont eu une carrière magnifique. Mais ils ont tous arrêté le foot avant 30 ans. Ils ont arrêté le foot avant 30 ans.
Ils ont fait leurs 15 ans.
Je donne le dernier exemple qu'on a connu. Mais peu importe, ils ont fait, peut-être qu'ils auraient gagné le Ballon d'Or s'ils avaient été plus tard.
Wayne Rooney, il a duré, Wayne Rooney.
Non, mais c'est okay. Il a raison, peu importe d'accord. L'âge à laquelle ils arrêtent.
Marco,
ils ont fait leurs 15 ans de professionnalisme.
Marco Verratti. Ouais. Il te l'a dit lui-même.
Ouais.
Commencer le foot à 14 ou 15 ans avec des seniors m'a tué. Il l'a dit lui-même. C'est-à-dire que Marco Verratti avait le niveau.
C'est Kevin Devey qui l'a tué.
Oui, c'est ça, surtout Kevin.
Mais pas que ça. Est-ce que tu peux te construire comme être humain en gagnant ces sommes-là, en jouant avec des adultes, en prenant des coups d'adultes alors que ton corps est encore un corps d'adolescent? Tout ça fait que tous ces mecs-là, ils ont malheureusement arrêté le foot à 28 ans. Mais les plus belles années des footballeurs, Karim Benzema, Thierry Henry, c'est entre 25 et 35 ans, c'est pas entre 15 et 25.
Oui, mais peut-être que tu vas avec le nouveau
tu
foot.
Tu ne l'auras pas le nouveau foot.
Non, mais avec le nouveau foot, peut-être que tu vas décaler de 25 à 35.
Dans tous les sports, les meilleurs joueurs sont entre 25 et 35 ans, dans tous les sports.
Oui,
pourquoi le foot serait différent?
Oui, peut-être qu'aujourd'hui, avec la maturité et la précocité, ce sera peut-être entre 20 et 30.
C'est quoi la maturité? La plupart, ils explosent en vol. Je te les ai cités.
Mais non, mais il y a des contre-exemples quand même. Tu vois, par exemple, on le disait, un Wayne Rooney, un Eden Hazard, un Cesc Fabregas, un Kylian Mbappé. Ils ont fait.
Mbappé, il a pas commencé à 16 ans.
Il a commencé à
17 ans. À 18 ans.
Sa première entrée avec Monaco, etc.
17 ans et demi.
33, il avait quoi?
17 ans et demi.
Hein? Il avait plus. Il avait moins. Il avait beaucoup moins.
Pas.
L'année où il gagne à Monaco, là, au Parc
moi,
des
c'est 17 ans et demi.
Au Parc des Princes, il devait avoir 17 ans. Enfin, aujourd'hui, 17 ans ou 15 ans, 17 ans ou 16 ans. Non, mais la question que je me pose, parce que Kevin, on va pas refaire le débat 18 fois, parce que en vérité, t'es du bon côté de l'histoire, dans tes avis.
Merci.
Non, mais de toute façon,
Mbappé, précision les gars, il a démarré le 2 décembre 2015, match nul à 1 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Il avait 16 ans et 11 mois.
Et voilà, oui. Et moi, je me rappelle.
Il a débuté, mais il a joué l'année d'après.
Non, mais je me rappelle du numéro 33 quand c'est il l'année a 2-0 au Parc. Il a 16 ans et demi.
C'est en hiver qu'il joue vraiment.
Ok. Okay. Non, mais là, Max Domann, il ne va pas jouer vraiment avec Arsenal. Il fait des rentrées.
Donc, à quoi ça sert?
Non, mais d'accord. Mais
à part que tu connaisses, toi, Walid Acherchour, Max Domann, alors qu'il y a deux semaines, on n'en avait jamais entendu parler. À quoi ça sert?
Mais Max Domann, tu le vois sur le terrain, tu dis, il a 23 ans.
Oui, mais son corps n'a pas 23 ans. Son cerveau non plus.
Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais avec Yamal qui est Ballon d'Or, qui doit être Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, qui a gagné l'Euro avec l'Espagne?
Mais il y aura toujours des exceptions, ça veut pas dire que ça va confirmer forcément la règle.
Max Domann, c'est peut-être une exception. Comment on le sait? Comment Arsenal, il le sait?
Mais le problème, c'est que tu mets ça dans la tête de tous les autres jeunes joueurs dans des clubs moyens, qui sont des joueurs peut-être moyens aussi. Après, t'as les parents, t'as les agents qui disent ah oui, mais Max Domann a 16 ans, ou Lamine Yamal. Mais t'es pas Max Domann, t'es pas Lamine Yamal.
T'as raison, ça va faire.
C'est pour ça que moi, ça fait factuellement des dégâts, c'est clair. Et je ne crois pas que ça aide ni Max Domann ni les autres.
Pedri, il a commencé à quel âge? 17 ans, il a eu une petite blessure, etc. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur milieu de terrain au monde.
Il y a des clubs. Il y a des clubs. Oui. Ah oui, Pedri, c'est quand même fait les croisés. Hein.
Oui, c'est enfin après.
Comme notre ami Florian Wirt qui avait joué à peu près 150 matchs de plus que Michael Ballack au même âge et qui s'est déjà fait les croisés aussi.
Ok, très bien, Kevin.
Ou comme Moussiala qui s'est fait les croisés.
Mais Pedri, tu fais quoi en fait? Pedri, il aurait pu faire les croisés à 28 ans.
Mais peut-être pas si tu lui donnes l'intensité qui est normalement requise pour un joueur de 17 ans, c'est-à-dire de jouer en 18 ans ou en 19 ans.
Qu'est-ce que tu fais quand t'es ces clubs?
Avec 25 ou 30 matchs par an et non pas 70 ou 80 l'année où il fait les JO, etc. Il se fait les croisés l'année suivante.
Haaland, il a 15 ans en Norvège. Bon, il explose tout. Tu fais quoi quand t'es le club norvégien? Tu veux gagner des matchs, non?
Non, mais il a 15 ans en Norvège. Haaland, d'accord.
Tu joues à Malmö, là. C'est pas Malmö, je me suis trompé du club. Brin ou Brown ou Braun, je sais plus le club. Il a 15 ans, il joue, il marque des buts. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi?
Haaland, c'est un morche, il fait 2m15.
Ah, d'accord, très bien.
Non, mais il y a toujours une exception. Non,
mais là, ça fait beaucoup d'exceptions quand même, Kevin.
Non, pas du tout.
Là,
dans le nouveau foot. Pas du tout. Tu m'as sorti 3 exceptions, ils sont tous fait les croisés.
Non, Lamine Yamal, Pedri.
Lamine Yamal, je ne le cède pas. D'accord. Pedri s'est fait les croisés. Okay. Florian Gilles s'est fait les croisés.
Oui, mais il continue à jouer les mecs.
Mais peu importe, leur corps est abîmé déjà.
Bellingham, il a commencé à 16 ans à Birmingham.
D'accord. Okay, tu fais quoi? D2. Combien de matchs?
En D2. Il fait 30 matchs.
30 matchs?
Ouais.
On parle de 80, là, dans les saisons 60-80.
On va juger avec plus de recul, effectivement, pour l'instant. Oui,
le recul, on l'a. Je vous les ai cités, les joueurs.
Kevin, pour moi, c'est plus dur pour Bellingham de jouer à Birmingham 40 matchs, là, chez les Bouchers, que Max Domann, Arsenal, à l'Emirates, où ils ont 80%.
Tu sous-estimes l'impact psychologique de jouer en première ligue avec l'exposition de la première ligue.
Pour moi, tu vas faire 15 ans, de 15 à 30 ans.
Et c'est pas bon.
Et tu faisais Iniesta, il faisait 24.
Qui 15 ans? Mais tu sais combien c'est? Mais est-ce que vous savez quelle est la moyenne d'une carrière d'un footballeur professionnel aujourd'hui? Est-ce que tu connais la moyenne?
Ah non, tu vas nous le dire, t'as travaillé le dossier.
Durée moyenne d'une carrière?
Voilà, dis-moi. Moyenne, hein.
Tu parles de très haut niveau, là?
8 ans?
Non, joueur professionnel de football.
8 ans?
Mais ça dépend.
C'est exactement ça. C'est 8 ans. Donc c'est pas 15 ans. Attends,
tu parles de joueur avec ceux qui évoluent en élite.
Mais il est où aujourd'hui Makeda? Il est où? Il est où Bojan Krkić? Il est où? Ils sont où?
C'est le football.
Mais non, c'est pas le football.
C'est la machine à laver du foot.
Mais c'est pas la machine à laver.
Il veut pas être fataliste avec ça.
Je ne veux pas être fataliste. Ce gars-là regarde ses interviews. Ce gars-là est détruit par le football.
Très bien, mais comme aujourd'hui un tas de footeux qui
et n'ont non, pas. Et donc parce qu'un tas de footeux sont détruits, sportifs sont détruits, Kevin, on ne peut pas défendre le fait qu'il faut protéger ces mecs-là de ces dérives.
C'est terrible. Mais demain, si Ngoumoa, il est meilleur que ils ont qui à gauche là?
Mais non, mais
s'il est meilleur que Gakpo.
S'il
est meilleur que Gakpo, Liverpool, ils vont
mais
pas
non,
s'en
priver. Mais il sera jamais meilleur que Gakpo.
D'accord, quand Yamal était meilleur que. Enfin, quand ils vendent Dembélé, qu'ils prennent Yamal. Enfin, Yamal, ils le prennent pas, il est dans la centre de formation. Et que le mec, il explose tout. Si t'es le Barça, tu fais quoi? Le mec, l'année d'après, il te fait gagner la Liga, l'Espagne. C'est quoi? Il ne prend pas, comment il s'appelle, de la fonte. Il dit non, les gars, il a 17 ans, je vais pas gagner l'euro. Mais si le Barça n'a pas ces problèmes financiers,
inscription de joueurs. Ouais. Est-ce qu'il sort pas un peu plus tard? Et est-ce que c'est très grave si c'est pas 7 euros là qui gagne, mais celui dans 2 ans, dans 4 ans?
Non, c'est pas très grave.
Alors, mais c'est ce que je te dis, en fait.
C'est un enfant de la crise.
Mais il y a des enfants de la crise. Ça, c'est une particularité. Mais à Liverpool, il n'y a pas de crise. À Arsenal, il n'y a pas de crise. Donc, quel est l'intérêt de faire débuter un mec à 15 ans?
Il n'y a pas d'urgence à faire démarrer Max Domann à 15 ans.
Mais il démarre pas, il a joué 10 minutes.
À faire jouer Max Domann à 15 ans.
Donc, toi, tu le connais aujourd'hui, on le connaissait pas il y a 10 jours.
Bon.
Ça sert à rien.
Mais donc tu fais quoi? Tu dis quoi, Arteta?
David Guzman en a parlé il y a un an.
C'est quand même des gens compétents, les Arteta, les flics, etc. Ils font, c'est quoi? Ils
brassent les joueurs.
C'est pas leur
intérêt en fait. La santé mentale de Doman dans 5 ans, c'est pas son problème.
À l'époque, Eden Hazard, quand Claude Puel il le lance, etc. Il doit faire quoi? Il doit continuer à jouer avec Obradovic.
Ce que je te dis, c'est que moi, je me soucie de la santé mentale et de la santé physique.
Arteta l'avait déjà fait avec Nouanieri également. Tu vois, il a aucun problème à lancer des jeunes très jeunes.
Mourinho lance Varane,
le plus jeune joueur de l'histoire.
Il lance Varane à quel âge?
Il a pas 16 ans, Varane, quand même.
Il doit avoir 17.
Mais là, on parle de mecs de 15 ans. Les mecs, ils doivent être au lycée, normalement, maintenant, même pas question, au collège, quasiment.
Maintenant, la question que je me pose est là. Je t'ai dit que t'étais du bon côté de l'histoire. De toute façon, ton avis, c'est le bon. Je te dis juste que, moi, la question que je me pose, et vu que t'es plus calé sur le dossier que moi, c'est, en fait, physiquement, c'est
moi,
quoi
c'est
la limite?
Dangereux.
Non, mais c'est quoi la limite?
18, pour moi, 18 ans.
Non, mais là, par
18 ans, t'es en âge de voter, t'es en âge de débuter.
Là, on est en train de reculer jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire qu'il peut avoir un.
Ah oui, mais c'est ça. Pourquoi tu votes à 18 ans? Parce que t'es censé avoir une maturité psychologique qui te permet de voter.
Réponds à ma question. C'est quoi la suite? C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse. Il peut avoir quoi? Un mec de 13 ans, de 12 ans, de.
Non, mais si on recule. C'est pour ça, c'est des dérives. Il y a un moment, il faut mettre des règles aux dérives.
Stop! Terminé! Pour Génération After, les gars. Gilbert entre dans le studio. Daniel est déjà installé. Trop, Jean-Louis Tour arrive également. Merci Walid, merci Kevin. On est là de retour demain soir. Je rappelle Samir Nasri, invité de Génération After à partir de 20h. L'After continue sur RMC jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous, n'oubliez pas. Julien Cazard sera là et Jean-Christophe Doué pour la suite, épisode numéro 2 des Nuits du Cazard enchaîné. Bonne soirée à tous sur RMC.